Chapitre 14.
S'il y avait des soldats partout, demanda Kara, pourquoi ne se sont-ils pas emparés de vous?
Le genre de question directe que seule une mort de Sith pouvait poser en de pareilles circonstances, parce que la notion de convenance n'était pas susceptible de déranger ces femmes-là. La même idée avait traversé l'esprit de Richard. Le temps de trouver comment la formuler, il s'était fait brûler la politesse par Kara.
Ils ont cru que Jebra était une servante, choisie par l'ordre impérial, répondit Nietzsche à la place de la pitié. La voyant aller et venir librement si longtemps après leur victoire, les Soudars se sont dit que leur chef avait trouvé une utilité à cette prisonnière.
C'est exactement ça, confirma Jebra. Un officier m'a même tiré de force dans une salle, où des hommes étudiaient une série de cartes déroulées sur des tables. La pièce n'avait pas été autant saccagée que les autres. L'officier et ses compagnons voulaient savoir où en était leur repas, comme si j'en avais quelque chose à faire. Ces hommes avaient l'air de brutes épaisses, comme tous les autres. J'ai compris qu'il s'agissait de grader en voyant la déférence que leur témoignaient les divers messagers qui entraient et sortaient sans cesse de la pièce. Quelques-uns de ces officiers, un peu plus âgés que le soldat moyen, semblaient un tout petit peu plus conscients de ce qu'ils faisaient. Une lueur calculatrice brillait dans leurs yeux, et les guerriers du rang les traitaient avec ce qui pourrait passer pour du respect si cette notion avait cours dans l'armée de l'ordre. Comme tous les chefs, ils détestaient qu'on atermoie lorsqu'ils posaient une question. Je vis dans cette mésaventure une occasion de sauver ma peau si je m'y prenais convenablement. M'inclinant bien bas, j'ai affirmé que la nourriture arriverait très bientôt. L'estomac criant famine, ils me firent comprendre que j'avais intérêt à ne pas mentir, puis ils me laissèrent partir. Je pris la direction des cuisines, attentive à marcher d'un pas décidé mais sans courir, car la vue d'une femme paraît s'enfuir éveillait immanquablement les instincts de chasseur de ces rustres. Des dizaines d'hommes et de femmes d'un certain âge s'affairaient devant les fourneaux. Je reconnus des cuisiniers qui travaillaient depuis des années au service de la reine. Des hommes plus jeunes et plus vigoureux se chargeaient des tâches qui dépassaient les capacités physiques des filles de cuisine. Par exemple, porter des quartiers de viande ou faire tourner d'énormes broches au-dessus de braseros géants. Tous ces gens travaillaient avec une extraordinaire concentration, comme si leur vie en dépendait. Rien d'anormal puisque c'était bel et bien le cas. Quand j'entrais dans les cuisines, personne ne fit attention à moi, tant l'activité était frénétique. Comprenant qu'on ne s'intéresserait pas à mon problème, je m'emparai d'un grand plateau lesté de tranches de viande et proposai de la porter dans la salle des cartes. Comme je m'y attendais, nul n'émit d'objection. Dès que je fus revenu, les officiers se jetèrent sur la nourriture, comme la misère sur le pauvre monde. Sans prendre la peine d'utiliser des couverts, ils entreprirent de dévorer la viande froide à main nue. Cessant un instant de se goinfrer, un des types me demanda pourquoi je n'avais pas d'anneau à la lèvre inférieure. Paniqué, je me demandais de quoi il voulait parler. « C'est un moyen d'identifier les esclaves, » dit Nietzsche. « Ainsi, les soldats du rang ne s'en approchent pas, laissant leurs jouets au gradé. »« C'est ça, oui. » L'officier en question brailla un ordre. Un soldat me ceintura, m'immobilisant pendant qu'un autre me perçait la lèvre pour y faire passer un anneau de fer.
« Une référence au chaudron et à d'autres ustensiles de cuisine, » expliqua Nietzsche. L'anneau de fer sert à marquer les cuisinières et autres servantes.
Richard vit passer un éclair de rage dans les yeux bleus de la magicienne. Elle aussi avait longtemps porté un anneau, mais en or, pour signaler qu'elle était la propriété personnelle et intouchable de l'empereur. Ce n'était en aucun cas un honneur. Jagang s'était servi de sa propriété de la manière la plus ignoble qui soit.
Encore une fois, dit Jebra, c'est tout à fait ça. Après qu'on m'eût posé l'anneau, on me renvoya aux cuisines chercher plus de nourriture et des bouteilles de vin. En exécutant ma mission, je m'aperçus que tous les esclaves qui s'échinaient à préparer les repas portaient un anneau de fer. Conscient de risquer ma vie à chaque instant, j'obéis aux officiers, faisant des dizaines de fois la navette entre les cuisines et leurs salles. Régulièrement, une gorgée d'eau ou une bouchée de nourriture m'empêchait de m'évanouir de fatigue. Intégré, malgré moi, au personnel qui servait les nouveaux maîtres du palais, j'eus à peine le loisir de m'apercevoir que j'avais échappé à un destin beaucoup moins enviable. Malgré la douleur et le sang qui perlait à ma lèvre, je me réjouissais de porter un anneau et d'être ainsi protégé de la lubricité permanente des soldats. Très vite, je fus chargé de ravitailler des officiers ailleurs qu'au palais. En arpentant Ebinicia, je pris la pleine mesure du fléau qui venait de s'abattre sur Galéa.
Djebra se tut, le regard dans le vague. « Qu'as-tu vu ?» lui demanda Richard.
Lapithi le regarda avec des yeux ronds, comme si elle avait oublié qu'elle racontait son histoire à un auditoire. Elle parvint à se ressaisir et continua. Autour de la ville, des dizaines de milliers de cadavres finissaient de pourrir. Aussi loin que je pouvais voir, le sol était jonché de dépouilles dont personne n'avait jugé bon de s'occuper. Ce spectacle semblait irréel. Pour moi, il était familier, car je l'avais découvert dans ma vision. Hélas, il y avait encore plus affreux. Les blessés de notre armée avaient été abandonnés sur place, à côté des corps de leurs frères d'armes. Après 3 ou 4 jours, beaucoup avaient succombé, mais les plus résistants n'avaient pas encore fini d'agoniser. Quelques blessés plus légers et immobilisés pour une raison ou pour une autre imploraient qu'on ne les laisse pas crever de faim et de soif. Je me souviens d'un homme dont la jambe était coincée sous un chariot renversé, et d'un autre cloué au sol par une lance enfoncée dans son ventre. Ne voulant pas mourir, le pauvre n'osait plus bouger de peur de déclencher une hémorragie en délogeant l'arme de ses entrailles. Plusieurs blessés, une jambe cassée, quand ce n'étaient pas les deux, rampaient au milieu des cadavres d'hommes et de chevaux. Je serais bien allé les aider, mais les soudards de Jagang surveillaient tout le secteur et ils les auraient exécutés sans autre forme de procès. Pour aller ravitailler les avant-postes, je devais traverser ce charnier plusieurs fois par jour. Les collines où avait eu lieu la bataille finale grouillaient de monde, des hommes et des femmes qui marchaient lentement entre les morts et les blessés, les détroussant méthodiquement. Plus tard, j'ai appris qu'une petite armée de civils suivait les troupes de l'ordre, des charognards vivant des miettes que leur laissaient les soldats. Ces vautours humains faisaient les poches des cadavres, tirant ainsi leur subsistance de la mort et du malheur. Je revois encore une vieille femme, un châle blanc sur les épaules, penché sur un de nos soldats encore vivant. Parmi d'autres blessures, le pauvre avait une jambe ouverte jusqu'à l'os. Ses mains tremblaient convulsivement, leurs muscles perclus de crampes à force de tenir fermé l'horrible plaie. Pendant que la vieille le fouillait, le blessé l'implora de lui donner un peu d'eau. L'ignorant superbement, elle déchira sa chemise pour voir s'il portait autour du cou une bourse attachée à une lanière de cuir, une astuce qu'employaient beaucoup de soldats. D'une voix de plus en plus faible, le moribond continuait à quémander de l'eau. Agacée, la vieille tira de sa ceinture une longue aiguille à tricoter et l'enfonça dans l'oreille de l'homme. La langue pointant à la commissure de ses lèvres sous l'effort, elle fit bouger l'aiguille de haut en bas pour dévaster le cerveau de sa victime. Le blessé eut quelques spasmes mais ne bougea plus. Après avoir récupéré l'aiguille, la vieille l'essuya sur le pantalon du mort en marmonnant qu'il se tiendrait tranquille maintenant. Puis, elle recommença sa fouille méthodique. Je fus très surprise par l'expertise dont témoignait chaque geste de cette femme, la preuve qu'elle n'en était pas à son premier assassinat. J'ai vu d'autres civils utiliser une grosse pierre pour faire exploser la tête d'un blessé, histoire d'être tranquille pendant qu'il le détroussait. D'autres charognards ne prenaient pas la peine d'achever leur proie si elle n'était plus en état de leur résister, même faiblement. Certains pillards, en revanche, brandissaient triomphalement le poing lorsqu'ils trouvaient un blessé à achever, comme si ce geste ignoble les transformait en héros. Les plus pervers torturaient les moribonds, amusés de les voir incapables de fuir ou de se défendre. Par bonheur, ces abominations cessèrent assez vite et, en quelques jours, les derniers blessés rendirent l'âme, tués par leurs plaies ou par les détrousseurs de cadavres. 2 ou 3 semaines durant, les bouchers de l'ordre célébrèrent leur victoire en s'adonnant à une orgie de meurtres, de viols et de pillages. Pas un bâtiment n'échappa à leur furie, et ils raflèrent tout ce qui avait de la valeur. À part les esclaves comme moi, tous les hommes furent exécutés ou faits prisonniers, et toutes les femmes finirent dans les bordels de campagne de Jagang. Djebra dut de nouveau s'arrêter pour sécher ses larmes. Aucune femme ne devrait jamais subir ce qu'ont enduré toutes les citadines des Bénitia. Tous les hommes capturés par l'ordre, soldats ou civils, savaient ce qui arrivait à leurs mères, leurs femmes, leurs filles ou leurs sœurs. Les soudards ennemis s'en assuraient pour ajouter la torture morale à l'humiliation de la défaite. Régulièrement, des prisonniers qui ne supportaient plus cette ignominie se révoltaient et se faisaient impitoyablement massacrer. Les hommes survivants furent bientôt obligés de creuser des fosses communes pour les montagnes de cadavres qui s'accumulaient un peu partout. Leur travail terminé, ils devaient inhumer les corps. Ceux qui refusaient finissaient dans les fosses. Quand tous les morts eurent été enterrés, les prisonniers reçurent l'ordre de creuser de grandes tranchées. Puis, les exécutions commencèrent. Tous les mâles âgés de plus de 15 ans furent mis à mort. L'ordre détenant des milliers de prisonniers, je compris que cette élimination de masse prendrait des semaines et des semaines. Sous la menace des armes, les femmes et les enfants furent contraints d'assister au massacre. Alors qu'ils voyaient mourir tous les défenseurs et les citadins des Bénitia, on les informa que tel était le destin des fourbes qui s'opposaient aux lois équitables et morales de l'ordre impérial. Pendant les interminables exécutions, on leur tenait de pompeux sermons sur la perversité de leur existence passée. Quand on vivait dans l'égoïsme, leur répétait-on, on mourrait ainsi, rejeté par l'humanité tout entière. Mais grâce à l'empereur Jagang, le monde serait un jour débarrassé de cette affreuse corruption. La plupart des hommes furent décapités, mais il y eut de macabres variantes. Certains suppliciés furent contraints de s'agenouiller au bord d'une tranchée. Quelques colosses armés de massues à tête de fer passaient derrière eux et leur faisaient exploser la tête d'un seul coup puissant. Deux prisonniers enchaînés suivaient chacun de ses bourreaux et se chargeaient de faire basculer les cadavres dans leur dernière demeure. Pas mal d'hommes furent utilisés comme cible d'exercice pour les archers et les lanciers de l'ordre. Le jeu le plus en vogue consistait pour les tireurs à se saouler avant de mettre leur précision à l'épreuve. Des spectateurs impitoyables se moquaient des maladroits qui avaient besoin de s'y reprendre à 2 ou 3 fois pour tuer un prisonnier. La consommation d'alcool des soldats me stupéfia, au moins au début. Puis je compris que c'était une défense pour certains. Face à cette industrialisation de la mort, bon nombre d'hommes, se sentant de plus en plus mal à l'aise, cherchaient refuge dans une ivresse quasi permanente. Tuer sur le champ de bataille était une chose. Exécuter de sang-froid des civils en est une autre, même pour les pires brutes de l'univers. Enthousiastes ou non, les soldats de Jagang accomplissaient leur sinistre mission avec une efficacité qui me glaçait les sangs. Le meurtre organisé, cette notion nouvelle pour moi, devenait une forme d'art et une légion de petits génies proposait des améliorations de plus en plus cyniques. Par une journée pluvieuse, je fus chargé d'apporter leur repas à des officiers installés sous l'auvent d'une boutique depuis longtemps mise à sac. Ces gradés étaient là pour assister à une exécution de masse conçue comme un véritable spectacle. Pour l'occasion, des dizaines de femmes, souvent à demi nues, furent sorties pour quelques heures des bâtiments transformés en bordel. Aux hurlements que poussèrent ces malheureuses et aux prénoms qu'elles criaient hystériquement, j'ai compris que les tortionnaires de l'ordre avaient pris le temps de mener des enquêtes minutieuses sur les condamnés. Après avoir subi tous les outrages imaginables, ces femmes allaient devoir assister à l'exécution de leur mari. Comble du sadisme, les couples étaient conduits ensemble sur les lieux du massacre et séparés au dernier moment. Serrées les unes contre les autres pour se réconforter un peu, les femmes durent regarder pendant qu'on attachait les poignets des hommes dans leur dos. Puis ces pauvres bougres furent obligés de s'agenouiller au bord des tranchées, mais en se plaçant face aux spectatrices. Des soldats de l'ordre entreprirent alors de circuler derrière les condamnés. La méthode d'exécution était simple. Prenant un supplicié par les cheveux, le bourreau lui inclinait la tête en arrière, puis lui tranchait la gorge avec son couteau. Ensuite, toujours en tenant sa victime par les cheveux, le tueur n'avait plus qu'à la faire basculer dans la tranchée. Tremblant de peur, les condamnés pleuraient en criant le nom de leur bien-aimé. Des déclarations d'amour éternel d'autant plus touchantes que le temps allait s'arrêter à jamais pour ces malheureux. Les femmes répondaient par des serments tout aussi fougueux, et pendant ce temps, les exécuteurs de l'ordre jetaient dans les tranchées des moribonds qui allaient s'écraser sur le corps d'une connaissance, d'un ami ou d'un frère. Le spectacle le plus affreux auquel j'ai jamais assisté. Leur résistance épuisée, plusieurs femmes perdirent connaissance et s'écroulèrent sur le sol boueux, souillé de vomi, la réaction physiologique incontrôlable qu'avaient presque toutes ces malheureuses. Alors que la pluie continuait à tomber, indifférente au drame des hommes, certaines épouses tentèrent d'échapper à la surveillance des soldats de l'ordre. Hilares, ces brutes les ceinturèrent et s'éloignèrent avec elles en décrivant par le menu les outrages qu'ils entendaient leur faire subir. Sans nul doute, bon nombre de condamnés entendirent ces horreurs, un raffinement dans la cruauté qui dépasse mon imagination, je dois le confesser. On ne se contentait pas de séparer les familles, on les exterminait. Vous connaissez la fameuse question « À quoi ressemblera la fin du monde ?» Eh bien moi, je connais la réponse. À ce que j'ai vu pendant des semaines à Ibinitia. N'était que l'Apocalypse visait une personne à la fois, la fin du monde, oui, mais fragmentée en quelque sorte.
Richard se prit les tempes entre le pouce et l'index, appuyant si fort qu'il redouta un moment de se faire exploser le crâne. Au prix d'un effort surhumain, il réussit à empêcher sa voix de trembler. « Quelqu'un est-il parvenu à s'échapper ? » demanda-t-il. « Au cours de cette série de viols et de meurtres, y a-t-il eu quelques évasions ?»«
Je crois, »
répondit Djebra.
« Hélas, je ne peux rien affirmer. » Ne vous inquiétez pas, il y a eu le nombre requis d'évasions,
dit Nietzsche.
Le nombre requis ?
Répéta Richard, incapable de contenir plus longtemps sa colère.
Que veux-tu dire ?
L'ordre sait que certaines de ses proies lui échappent,
répondit l'ancienne maîtresse de la mort.
Pendant les massacres, les officiers s'arrangent pour que la sécurité ne soit pas parfaite, afin qu'il y ait quelques évasions.
Pourquoi ?
Demanda Richard, qui n'y comprenait plus rien.
Nietzsche le dévisagea longuement avant de lui dire la vérité. Il faut bien que les rescapés terrorisent les habitants de la cité suivante. Grâce à cette publicité, des dizaines de villes se sont rendues sans combattre. L'ordre ne crache pas sur les victoires faciles, tu sais. Les miraculés qui parviennent à fuir une cité martyrisée sont, sans le savoir, des agents très efficaces de Jagang.
À la façon dont son cœur cognait dans sa poitrine, Richard n'avait aucun mal à comprendre qu'on soit mort de peur après avoir entendu de tels récits. Se concentrant sur Djebra, il se passa lentement la main dans les cheveux et demanda « Tous les prisonniers furent-ils exécutés ?»
Une partie des hommes, jugés inoffensifs pour des raisons qui m'échappent, ont été envoyés travailler dans les fermes à l'extérieur de la ville. Je n'ai jamais su ce qui leur est arrivé, mais je suppose qu'ils continuent à s'échiner pour nourrir les soudards de l'ordre.
Djebra baissa les yeux et écarta distraitement une mèche de cheveux de son front.
Les femmes survivantes devinrent la propriété des soldats. Le cheptel des officiers, trié sur le volet, comprenait seulement les plus jolies filles du lot. Pour les reconnaître, on les affublait d'un anneau de cuivre. Des charrettes traversaient chaque jour le camp pour ramasser les cadavres des prisonnières maltraitées par les hommes du rang. Même s'ils se montraient un peu plus économes, les officiers ne firent jamais rien contre la brutalité des soldats. Les mortes finissaient dans les tranchées, et voilà tout. Je n'ai jamais vu une seule personne, même un héros de l'ordre, être enterré sous une pierre tombale. La fosse commune pour tout le monde. Quoi de plus logique pour un mouvement qui nie l'importance de l'individu ?
Et les enfants ? Voulut savoir Richard. Tu as dit qu'on ne tuait pas les gamins en dessous de 15 ans. Djebra prit une grande inspiration avant de répondre.
Eh bien, dès le début, les jeunes garçons furent regroupés par tranches d'âge et affectés à ce qu'il faut bien appeler des unités de jeunes recrues. On cessait de les considérer comme des vaincus, les transformant en jeunes membres de l'ordre impérial libérés de l'influence perverse de leurs parents, les véritables oppresseurs dans toute cette affaire. Si une invasion s'était imposée, c'était à cause des anciennes générations, pas de ces braves gosses innocents des péchés de leurs aînés. En conséquence, on les séparait des adultes, le premier pas sur le chemin de la rééducation. L'entraînement se présentait sous la forme de jeux plutôt agréables. On traitait bien les garçons qui prenaient vite goût à cette atmosphère de fraternelle compétition. Un seul bémol, ils n'avaient plus le droit de voir leur famille car s'attacher à ses parents était tenu pour un signe de faiblesse. Que les recrues le veuillent ou non, l'ordre impérial devenait leur famille. Le soir, couvrant parfois les cris des femmes, j'entendais les garçons chanter sous la houlette d'instructeurs spéciaux. Étant chargé d'apporter leur repas à ces formateurs, j'ai pu suivre l'évolution des jeunes au fil des semaines et des mois. Après un certain temps de formation, les adolescents assimilaient la notion de grade et commençaient à acquérir des réflexes de groupe. L'obéissance devenait alors leur seconde nature, et leur individualité s'estompait au profit d'une identité collective, en supposant qu'une telle chose puisse exister. Quand j'apportais leur plateau aux officiers, je voyais les jeunes gens se mettre au garde-à-vous pour l'inspection, réciter sans hésiter les enseignements de l'ordre, s'ébahir de la chance qu'ils avaient d'avoir été recrutés ou se réjouir de participer à la grande mission de sauvetage de l'humanité dirigée par le grand Jagang. Le mot « sacrifice » revenait sans cesse dans les discours de ces gosses. Je n'ai jamais assisté à leurs leçons, donc je ne saurais dire ce qu'on leur apprenait. Mais je me souviens très bien du petit texte qu'ils déclamaient tous ensemble en se préparant à être passés en revue. « Seul, je ne suis rien. L'unique sens de mon existence, c'est de servir les autres. Unis, nous sommes invincibles. » Une fois formés, les garçons étaient invités à assister aux exécutions en masse de traîtres à l'humanité. On les encourageait à se réjouir de la mort des félons et leurs instructeurs présents à leur côté leur déclamaient des tirades exaltantes. « Soyez de jeunes héros durs et forts. Voyez ce qui arrive aux égoïstes qui se détournent de leurs prochains. Vous êtes destinés à sauver l'humanité, alors montrez-vous sans faille, car l'ordre aura bientôt besoin de vous. » Au début, tous les gamins résistaient à cet endoctrinement. Mais les jours passaient et le discours des instructeurs ne variait jamais, pénétrant insidieusement dans les esprits. Même si voir les exécutions révulsait la plupart des garçons, ils finissaient par s'y faire, se persuadant que c'était le seul moyen d'étouffer à sa source la corruption qui menaçait la survie de l'humanité. L'ordre passait alors à l'étape suivante. Bombardés juges, les gamins devaient condamner à mort les prisonniers qui passaient devant leur tribunal. À l'occasion, il leur fallait même se charger des exécutions. Impressionnés, leurs camarades les admiraient d'appartenir à l'élite chargée de purger le monde des mécréants et des égoïstes. En moins de temps qu'il en faut pour le dire. Pratiquement tous les gamins furent impliqués d'une façon ou d'une autre dans la grande opération de meurtre organisée de Jagang. Le soir, ces héros insultaient et harcelaient les rares garçons qui refusaient de participer au massacre. Traités comme des lâches et des sympathisants des anciennes croyances, ces résistants étaient bien souvent battus à mort par leurs propres camarades. Bien entendu, à mes yeux, c'étaient eux les héros. De braves gens, tués par leurs anciens camarades de classe et de jeu, devenus leurs pires ennemis. J'aurais donné cher pour serrer chacun de ces enfants dans mes bras, en lui murmurant des paroles de réconfort, mais c'était impossible, et ils moururent seuls, regardés comme des parias par leurs amis d'hier. Le monde devenait fou. Tout était sans dessus-dessous, et la vie ne signifiait plus rien. La douleur et l'angoisse dominaient tout, la joie n'étant plus qu'un très lointain souvenir, qui serait bientôt banni de toutes les mémoires. Il n'était plus question du cycle de la vie, mais de celui de la mort, et nul n'y pourrait rien changer. Après quelques mois, et dans tout Galéa, on ne trouvait plus que des gamins endoctrinés et des femmes transformées en objets de plaisir. Leur appétit aiguisé, les garçons pubères commencèrent à participer au viol, une partie de leur initiation et une récompense pour les excellents services qu'ils rendaient déjà. Bien entendu, beaucoup de femmes guettaient la première occasion de se suicider. Tous les matins, on trouvait au pied des plus hauts bâtiments les cadavres de malheureuses qui s'étaient jetées dans le vide pour échapper à leur calvaire. Je ne compte plus les fois où j'ai vu une pauvre fille, cachée dans les ombres, attendre la mort après s'être tailladé les veines des poignets. Comprenant le choix de ces prisonnières, je faisais immanquablement semblant de n'avoir rien remarqué.
Alors que Djebra lui décrivait les horreurs consécutives à la chute des Binicia, Richard contemplait fixement les eaux immobiles de la fontaine. Même quand on combattait l'ordre depuis le début, comme lui, on avait du mal à saisir l'étendue du désastre. Les témoins comme la pitié étaient précieux, surtout quand les horreurs traversées jour après jour n'avaient pas eu raison de leur lucidité et de leur intelligence. Même si elle était émue, Djebra présentait ses souvenirs avec une précision scientifique qui glaçait encore plus les sangs. Les bras croisés, Chota ne quittait plus le sourcier des yeux, comme si elle entendait s'assurer qu'il écoutait attentivement. Mais comment aurait-il pu en être autrement? Décidément, la voyante avait perdu le contact avec la réalité.
Galéa disposait de réserves de nourriture suffisantes pour ses citoyens,
reprit Djebra.
Mais sûrement pas pour une horde d'envahisseurs qui comptait exclusivement sur le pays vaincu pour assurer leur subsistance. Dans ces conditions, le pillage prit des proportions jamais vues. Pas un seul Siyoagra n'échappa à l'avidité des Soudards. Tout le bétail, y compris les vaches laitières et les moutons si précieux pour leur laine, furent abattus pour nourrir la glorieuse armée de Jagang. Et quant aux volailles, au lieu de garder les poules pour être régulièrement approvisionnées en œufs, les crétins de l'ordre les abattirent toutes pour se remplir l'estomac. Les réserves diminuant, les officiers envoyèrent des messages pour demander du ravitaillement. Des mois durant, ils ne virent rien venir, sans doute parce que l'hiver ralentissait les convois.
Djebra hésita, puis déglutit péniblement avant de continuer.
Un sinistre jour, alors qu'une tempête de neige faisait rage dehors, on nous ordonna de cuisiner de la viande fraîche que des soldats allaient nous apporter aux cuisines. Lorsque la livraison arriva, nous découvrîmes qu'il s'agissait de corps humains décapités et vidés par des bouchers professionnels.
Richard se retourna pour regarder Djebra et vit une lueur de folie passer dans son regard. Tout ce qu'elle savait, tout ce qu'elle avait vu et tout ce qu'elle avait fait lui serrait la gorge, comme si elle redoutait d'être foudroyée sur place par on ne savait quelle justice immanente. Mais qui aurait pu lui en vouloir d'avoir tenté de survivre dans la tourmente?
L'un de vous a-t-il déjà découpé un être humain pour le mettre à cuire?
Demanda la pitié.
Nous avons dû le faire, préparant des morceaux à rôtir et d'autres qui conviendraient mieux à des ragoûts. Nous fîmes également sécher des centaines de kilos de viande pour assurer l'ordinaire des hommes du rang. Dès que la pénurie menaçait, il y avait de nouveaux arrivages de cadavres. Dans ces conditions, inutile de dire que nous nous évertuions à faire durer les réserves le plus longtemps possible. Quand nous en trouvions sous la neige, nous préparions des soupes ou des jardinières de légumes avec les plus improbables racines, mais il n'y avait jamais assez à manger pour tous les soldats. J'ai assisté à assez d'horreurs pour alimenter mes cauchemars jusqu'à la fin de ma vie. Mais voir ces soudards hilares, un cadavre humain sur l'épaule, plaisanter avec des cuisiniers plus pâles que la mort, eh bien, c'était trop, et je...
Je comprends, murmura Richard.
Au printemps, les convois de l'intendance arrivèrent enfin, débordant de vivres. Mais malgré l'incroyable quantité de nourriture, je compris très vite que ça ne suffirait pas. Des renforts accompagnaient les chariots. Alors qu'Ebinicia grouillait déjà d'envahisseurs, cette horde supplémentaire acheva de me démoraliser. J'entendis certains nouveaux officiers annoncer que d'autres chariots arriveraient bientôt avec encore plus de combattants frais et dispos. Une fois regroupés à Benicia, ces troupes seraient réparties dans toutes les contrées du milieu qui avaient sacrément besoin d'être pacifiées. D'autres villes attendaient de tomber et il fallait écraser au plus vite les poches de résistance. Avec les vivres arrivèrent également des lettres de soutien de la population de l'Ancien Monde. Pas des missives personnelles, bien sûr, puisque l'ordre ignorait comment se nommaient ces soldats et ils s'en fichaient comme d'une guigne, mais des textes exaltés s'adressant aux glorieux héros qui luttaient pour la grandeur du Créateur et le salut de l'humanité tout entière. Pendant des semaines, chaque soir, on organisa des lectures publiques de ces assommants messages. Ainsi, même les soldats illettrés n'échappaient pas à un salutaire bourrage de crâne. Même s'il y avait toutes sortes de variantes, trois thèmes se détachaient nettement. Le sacrifice des civils, qui se dépouillaient de tout au profit des combattants, participant ainsi à l'effort de guerre. L'incroyable courage des soldats, prêts à tout pour assurer le triomphe de la bienveillante philosophie de l'ordre. Et l'ardeur des jeunes femmes restées au pays, qui attendaient avec impatience de pouvoir offrir aux guerriers le repos qu'ils avaient bien mérité. Sans que ce soit vraiment étonnant, les lettres de la troisième catégorie avaient un franc succès et certaines pouvaient être lues et relues des dizaines de fois. Les citoyens de l'Ancien Monde envoyaient également de petits cadeaux à leurs défenseurs. Des porte-bonheur, des dessins pour égayer les tentes, des biscuits et des gâteaux pourris depuis longtemps avec les avanies des convois, des chaussettes, des mitres, des chemises et des chapeaux en tout genre. On trouvait aussi dans ces colis des herbes médicinales et des tisanes, des mouchoirs parfumés envoyés par des amoureuses pressées de s'abandonner entre les bras des soldats. Des équipements de cuir fabriqués par de jeunes garçons pas encore en âge de se battre, mais déjà assez vieux pour abominer les mécréants du Nouveau Monde, dont ils n'avaient pourtant jamais aperçu le bout du nez. L'ordre ne perdant jamais le sens pratique, les chariots ne repartaient jamais à vide vers l'Ancien Monde. Au contraire, il convoyait jusqu'au cœur de l'Empire l'extraordinaire butin que collectaient les combattants à chacune de leurs victoires. On eût dit une sorte de commerce, à manger contre du butin et du butin contre de quoi manger. Naturellement, voir arriver des trésors par tombereaux entiers entretenait le moral des sujets de Jagang, qui continuaient du coup à soutenir l'effort de guerre sans se poser l'ombre d'une question. Dès le début, les envahisseurs étaient trop nombreux pour tenir tous en ville. Avec les renforts qui arrivaient sans cesse, le camp s'étendit régulièrement, une forêt de tentes poussant comme par enchantement dans la plaine et sur toutes les collines. À perte de vue, on avait abattu tous les arbres pour en faire du bois de chauffe. Ainsi déboisé, le paysage perdait tout son charme et paraissait même sinistre dès que le temps tournait au Mossad. L'herbe ne parvenant plus à repousser sous le piétinement incessant des hommes, des bêtes et des chariots, Galéa paraissait s'être transformée en un océan de boue. Les guerriers frais étaient aussi affectés à des unités d'attaque spéciales, qui partaient prêcher la bonne parole de l'ordre dans d'autres régions des contrées du milieu. Quand il s'agissait de réduire le Nouveau Monde en esclavage, l'ordre impérial ne semblait jamais à court d'hommes et d'équipements. Mon travail consistant à nourrir les officiers. J'ai souvent entendu des bribes de conversations stratégiques. Les avancées de l'ordre, les régions restant à conquérir, le nombre de prisonniers encore en vie, la quantité d'esclaves envoyés récemment au pays. De temps en temps, les plus belles femmes étaient invitées à distraire les hauts gradés. Comme toujours, un seul sentiment, la peur, se lisait dans les yeux de ces malheureuses qui finiraient tôt ou tard par ne plus aspirer qu'à la mort. Depuis la victoire de l'ordre, un long cauchemar nous entraînait toujours plus bas, ramenant l'humanité aux pires excès de la barbarie. N'étaient les esclaves, on ne trouvait plus en ville la moindre trace des ébéniciens de souche. Tous les hommes de plus de 15 ans avaient fini dans les tranchées ou étaient partis pour le sud tenir lieu d'esclaves aux vainqueurs. Quant aux femmes, toutes celles qui ne servaient pas dans les bordels avaient péri sous les coups des soudards ou crevé de faim dans les bas-fonds de la ville réduites à disputer leur nourriture aux rats. En hiver, j'ai vu des vieilles femmes et des gamines, une procession de squelettes ambulants, mendier quelques miettes de pain à la nuit tombée. Même si ça me brisait le cœur, je ne leur ai pas souvent donné quelque chose. Parce que être surprise nous aurait valu la mort à toutes. mais quand c'était possible, j'essayais de tricher avec les lois d'airain de l'ordre. Au bout du compte, on jurait que la population d'Ebinitia, soit des centaines de milliers d'âmes, a été rayée de la carte. Ce qui fut naguère le cœur de Galéa n'existe plus. Aujourd'hui, c'est la tanière d'une horde de bouchers. Les civils qui suivent les hommes se sont bien souvent installés dans les demeures abandonnées par leurs habitants. Peu à peu, l'âme même de Galéa disparaît. Les femmes qui résistent à leurs conditions de catin accouchent d'enfants engendrés par des soldats de l'ordre et qui seront élevés pour devenir de loyaux zélateurs de l'empereur et de ses successeurs. Les garçons confiés aux instructeurs de Jagang ont tout oublié de ce que leur ont appris leurs parents. Fanatiques parmi les fanatiques, ce sont désormais des bouchers de l'ordre, plus exaltés encore que leurs camarades, en d'autres termes, une bande de monstres. Après un entraînement rigoureux, ces unités spéciales ont été lancées à l'assaut d'autres villes de Galéa et des contrées. Jagang a vraiment de quoi être fier de ses recrues. J'ai longtemps pensé que les soudards de l'ordre étaient des êtres différents, des sauvages n'ayant aucun rapport avec les habitants hautement civilisés du Nouveau Monde. Après avoir assisté à la métamorphose de ces gamins, je sais maintenant que les monstres ne sont pas différents de nous. On les fabrique tout simplement à partir de n'importe quel être humain. Je sais que c'est une idée choquante, mais toute personne peut devenir une zélatrice de l'ordre en un rien de temps. Djebra secoua la tête, trahissant son incrédulité.
Comment est-ce possible? Pourquoi suffit-il de quelques sermons pompeux, avec des mots ronflants comme altruisme, sacrifice, renoncement à soi, pour que des jeunes gens sains d'esprit se mettent à marcher au pas en chantant et ne se tiennent plus d'impatience à l'idée de mourir au combat?
La réponse est d'une simplicité enfantine, dit Nietzsche, au moins dans son principe.
D'une simplicité enfantine?
Répéta Djebra.
Vous n'êtes pas sérieux, je suppose.